Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. J'ai plein de choses à vous dire, alors restez jusqu'au bout. Sur le fameux triangle du risque boursier, je vous l'avais dit, chers amis, ne jouez pas. Quoi qu'en disent les conférenciers collapsologues qui vous annonçaient un dollar yen à 200, voire à 250, ne jouez jamais, ne jouons jamais contre l'alliance de deux banques centrales, et notamment lorsque dans cette alliance, il y a la Fed, secondée par la Banque centrale du Japon, avec soit des interventions directes, des rumeurs d'intervention, des possibilités d'intervention. Bref, la semaine dernière semble avoir confirmé ce scénario que j'évoquais avec vous en août, que les 164 JPY, 164 yens, soit bien le sommet majeur de l'USD yen. Alors après, le débat est là. L'USD yen qui s'envole, ok, ça met la pression sur la relation commerciale États-Unis-Japon, ça met la pression sur le Japon, l'inflation importée, etc. Un USD yen qui drop trop vite, c'est un yen qui rebondit trop vite. USD yen qui drop, c'est un yen qui rebondit. Si ça va trop vite, attention au débouclage potentiel des positions restantes dites de carry trade. Il faut que les choses restent sous contrôle. Et l'analyse technique ne se trompait pas, elle avait vu plein de choses. Je vous avais montré le retournement du positionnement institutionnel sur le yen, des traders institutionnels sur le yen qui commençaient à l'acheter. Bref, il y a plein de choses. Donc, enfin, le triangle du risque boursier. Le yen, le dollar, le pétrole. Et les trois s'alimentent ensemble. Le vrai risque est là. Mais, allez, a-t-on le droit d'être optimiste? A-t-on le droit de ne pas céder à cette mode qui consiste à voir le pessimisme partout? Et à se dire que ce triangle boursier pourrait partir en mode triangle des Bermudes et nous faire tous couler. Envoler du prix du pétrole, envoler du dollar yen, ou au contraire, envoler du yen, bon bref, etc., etc. Permettez-moi d'être optimiste. Permettez-moi d'être optimiste. Et je vais vous montrer, si vous restez avec moi jusqu'au bout dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, beaucoup de choses intéressantes, à la fois sur le plan technique, sur le plan fondamental, qui, moi, me font dire que les choses restent sous contrôle. Que les choses vont rester sous contrôle. Bon, donc je vais commencer par une grosse partie sur le yen. Sommes-nous au bout de la hausse des taux obligataires japonais? Est-ce que la Banque centrale du Japon va reprendre ses achats d'obligations, enfin cesser de ralentir ses achats? Elle va monter les taux le 18 septembre. Elle va monter les taux. Les taux sont encore très bas, elle va les monter à 25, mais ça ne change rien. Il en va de la relation commerciale États-Unis-Japon. Et puis, mais probablement qu'elle va faire quelque chose pour les taux longs. Le yen a probablement fait son bottom, donc le dollar yen son sommet. Je vais tout vous remontrer. On va aussi parler bien sûr du dollar ou l'incertitude. Alors, je vous ai fait la semaine dernière une vidéo sur le dollar debasement. Donc, la semaine dernière, vous avez vu que le dollar a à nouveau reculé. Pourtant, l'incertitude technique reste totale. Alors, il y a des éléments qui sont quand même toujours défavorables au dollar. Il reste sous résistance technique, etc. On est dans une espèce de compression technique qu'on voit un peu partout sur le dollar DXY ou le Fed Broad Dollar Index dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il faut que je remonte un certain nombre de choses intéressantes sur ce sujet. Cette semaine, vous savez, la semaine dernière, beaucoup de membres votants du FOMC ont parlé et ça a fortement baissé la probabilité que la Fed monte les taux le 16 septembre. Pourquoi? Parce qu'ils incitent sur l'inflation sous-jacente qui, elle, reste sous contrôle. Cette inflation profonde qui n'a pas été contaminée par le prix du pétrole. Bon, cette semaine, c'est la dernière mise à jour du CPI sous-jacent, du core CPI, avant la Fed du 16 septembre. C'est donc cette semaine, 10 et 11 septembre, PPI et CPI. Ça va être majeur pour le dollar américain. Je vais aussi vous parler du pétrole. Est-ce qu'on a le droit d'être optimiste sur le pétrole? Est-ce qu'on a le droit? D'un point de vue technique, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut pas? Et puis, je vais vous parler aussi de l'AIS. AIS, qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir si vous restez avec moi dans la vidéo. Et il y aura un risque bonus. Spread France-Allemagne. Où en est réellement l'état de la dette française? Le service de la dette française? C'est quoi les bonnes métriques de comparaison? Charge d'intérêt? Bon, bien sûr, la charge annuelle d'amortissement, mais bon. D'ailleurs, on fait un prêt pour la financer. La part de la dette détenue par les étrangers. Et si on compare avec le Japon, les États-Unis, ça donne quoi? En tout cas, le spread France-Allemagne, alors que le taux long français est un poil au-dessus du taux long italien, le spread France-Allemagne est en zone d'alerte rouge technique. Il faut que je vous le montre. Allez, triangle du risque boursier. Plein de choses à vous dire. La situation complexe, mais a-t-on le droit d'être optimiste? Eh bien, je vais vous montrer beaucoup de choses. C'est parti, nouvelle édition du Fast and Forex.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Dollar yen, dollar US, pétrole, le triangle du risque mondial, pas mal de choses à vous dire. C'est parti les amis, donc je vais commencer déjà par vous rappeler en quoi, pourquoi il s'agit actuellement du triangle de risque boursier. En tout cas, sur le marché d'échange et le marché des matières premières, du fait des corrélations et de l'effet d'entraînement, ces trois actifs s'auto-alimentent. Hausse du prix du pétrole, ça peut soutenir le dollar. Hausse du prix du pétrole, ça peut aussi contraindre la Banque centrale du Japon à monter davantage les taux pour casser l'inflation importée. Bon, il y a plusieurs approches. Je vais donc vous rappeler en quoi ce triangle de risque, je ne mets même pas peur parce que moi je suis un optimiste, mais et ainsi que les trois baromètres techniques de ce risque, et ensuite on les prend donc tous par la suite en détail, avec donc des éléments qui me semblent intéressants. USD/JPY, dollar US, pétrole, le triangle du risque mondial. Pourquoi ce triangle est important alors que ce sont trois marchés différents? Parce qu'ils sont reliés par les taux d'intérêt, l'inflation, les flux de capitaux et l'aversion au risque. Ils s'auto-alimentent. C'est d'ailleurs cette crainte de risque systémique. Les collapsologues mettent en avant un scénario du type envolée du prix du pétrole, poursuite de l'envolée des taux obligataires, envolée du cours du dollar américain, et aussi, à un moment ou à un autre, une banque centrale du Japon trop restrictive pour notamment lutter contre l'inflation, qui viendrait enclencher un rebond violent du yen, le yen qui pour moi fait son point bas, mais tout dépend de la vitesse de reprise, qui pourrait d'ailleurs entraîner un débouclement des opérations dites de carry trade. Alors bien sûr, il y avait aussi le scénario d'un effondrement de la valeur du yen à travers une tendance haussière sans fin du dollar yen, pouvant mener à un risque majeur pour l'économie japonaise, parce qu'un yen qui s'enfonce, c'est aussi des importations qui se renchérissent, c'est des capitaux qui peuvent sortir. Bon, l'USD/JPY n'ira pas à 200, comme certains l'annonçaient, c'est ce que montrent les derniers signaux techniques, mais en même temps, USD/JPY, il y a aussi le risque de carry trade, puisque le yen, de par ses taux d'intérêt très bas, enfin qui était très bas, c'est plus vraiment le cas, était une monnaie de financement mondiale. Le principe de ces opérations de carry trade, c'est que la finance mondiale allait faire des crédits en yens pour ensuite, donc à taux très bas, pour ensuite investir dans le monde entier, dans les pays du monde entier, dans les devises du monde entier, dans les marchés du monde entier, dans toutes les classes d'actifs, avec des rendements beaucoup plus élevés, les taux d'intérêt japonais remontant. Eh bien, le risque, c'est que le yen finisse lui aussi par fortement rebondir. Et dans ces cas-là, toutes les positions qui ont été ouvertes à l'extérieur, derrière, n'oubliez pas, il y a un crédit à la base, un crédit en yen, il faut le rembourser. Si la valeur du yen remonte, le coût du crédit à rembourser augmente, et donc il peut y avoir des opérations de débouclage de ces investissements pour rembourser le crédit avant que le yen ne monte trop. Donc c'est là aussi où la forte hausse de l'USD/JPY était un risque, mais la forte baisse aussi de l'USD/JPY est un risque. C'est là où c'est le scénario, c'est le cas de figure le plus difficile. Donc USD/JPY, le risque de carry trade, mais aussi le risque d'une monnaie trop faible pour l'économie japonaise, pour la relation commerciale entre les États-Unis et le Japon. Bien sûr, le dollar américain, alors c'est à la fois le baromètre du dollar qui réagit donc à la politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis, naturellement oui, mais c'est aussi le dollar debasement, c'est-à-dire la crédibilité qui diminue de l'économie américaine, le risque de la dette publique américaine, le déficit budgétaire américain, la charge d'intérêt dans le budget national annuel états-unien, je vous ai déjà montré des chiffres sur ce sujet, et donc in fine un dollar qui peut perdre de sa valeur, qui se déprécie relativement à d'autres actifs, jugés comme justement pouvant se préserver contre la baisse de la valeur du dollar. C'est notamment ce qui peut arriver avec le cours du Bitcoin, avec les métaux précieux, etc., ou même avec les actions du monde entier, en défaveur donc des actions américaines. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur ce dollar américain, actuellement, l'incertitude technique reste totale. En tout cas, il n'y a pas eu de cassure de résistance, pas de scénario d'envolée du dollar US comme le camp pessimiste peut le souhaiter depuis des mois et des mois. Ils n'ont jamais été servis par le marché. Et là, la baisse de l'USD/JPY, bien sûr, enfonce un peu aussi le dollar américain. Pour autant, l'incertitude est totale. La Fed arrive, elle arrive le 16 septembre. Il y a équiprobabilité, statu quo, pas statu quo. Il y a beaucoup de chiffres encore qui tombent cette semaine. Bien sûr, le pétrole. Alors, le pétrole, c'est le déclencheur ou le sauveur. Le déclencheur ou le sauveur. Le véritable danger apparaît lorsque les trois marchés s'alimentent mutuellement. Regardez bien, hausse du prix du pétrole, hausse de l'inflation, hausse des taux, hausse du dollar et pression haussière sur le yen si la BOJ décide de restreindre davantage sa politique monétaire pour justement lutter contre cette inflation. Ce scénario de risque systémique, cette envolée de ces quatre actifs dont je vous parle depuis le début de la vidéo, c'est ça, c'est le risque boursier mondial. Moi, ce risque boursier mondial, je n'y crois pas. Il y a des éléments d'espoir, il y a des éléments d'apaisement, et notamment, déjà, il y en a un qui disparaît, c'est, je pense, et je vais commencer par ça, c'est ce scénario d'une envolée du taux USDN à 200 yens, alors que là, d'un point de vue technique, et suite aux interventions des autorités japonaises et américaines, alliées cette fois-ci concrètement avec la BOJ et la Fed, alors, pas en direct, hein, aux États-Unis, on puise dans un fonds spécial justement qui a été créé pour agir sur le change, mais tout de même, c'est l'alliance de ces deux banques centrales qui a cassé cette tendance haussière, et d'ailleurs, désormais, les traders institutionnels arrêtent de shorter l'yen comme des zinzins, ils ont même renversé leur position, donc ça c'est aussi des choses que je vais vous montrer. Donc, pétrole, déclencheur ou sauveur, oui, c'est vrai que le pétrole, un pétrole qui s'envole au-dessus des 120 $, ça peut être le premier domino qui, derrière, crée le risque sur le dollar et sur le yen, d'accord. Mais c'est là aussi d'où peut venir l'apaisement. Et vous allez voir que la situation reste compliquée, mais d'un point de vue technique, il y a encore la possibilité que les choses s'apaisent sur le prix du pétrole. Je vais vous montrer la volatilité du prix du pétrole. Et puis aussi, quelque chose finalement dont on parle un peu moins, mais ça commence maintenant, je vous disais en introduction AIS, c'est-à-dire en réalité qu'à travers le détroit d'Ormuz, ça navigue. Ça navigue, transpondeur éteint. Ça navigue, transpondeur éteint, où en fait, grosso merdo, on n'est pas à 100% du trafic d'avant-guerre, comme d'avant les opérations militaires du 28 février, comme le prétend les États-Unis, mais on est à 70, 75, voire 80%. Donc, c'est aussi ce qui explique que les choses restent un peu sous contrôle. Donc, ça, ce sont c'est le triangle du risque boursier mondial. Et pour évaluer concrètement ce que représente ce risque boursier mondial, il faut donc pratiquer l'analyse technique et en termes de positionnement sur le taux USD/Yen, sur le dollar américain et sur le prix du pétrole. Et c'est l'analyse technique et du positionnement combiné sur ces trois actifs qui va permettre de déterminer si ce triangle boursier peut s'emballer et tendre vers un risque systémique ou si au contraire, comme un avion, il perdrait une aile et commencerait à plonger, et tant mieux, parce que si ce triangle ne se maintient pas en l'air, triangle des Bermudes, voilà, bon, quelle mauvaise comparaison, nous éviterons à ce moment-là le risque mondial. Et moi, c'est dans ce scénario-là que je m'inscris avec, donc, pour commencer, passe-t-on d'un risque à un autre, l'USD/Yen qui a fortement reculé, je vous renvoie donc, mais je vais bien sûr reprendre les éléments, j'arrête dans un instant, mais je vous ai proposé donc au mois d'août une vidéo USD/Yen stop massif de la Fed et de la BOJ. C'était une alliance unique. Ça a été le stop massif, souvenez-vous donc, voilà, je vous ai fait donc un point sur ce sujet au début du mois d'août. Lorsque vous avez eu donc sur les sessions boursières du 30 et du 31 juillet, une intervention massive et combinée des autorités japonaises et des autorités américaines à travers la Fed et la BOJ pour casser la hausse du dollar yen. Et beaucoup ont pu penser à ce moment-là, non, mais comme d'habitude, c'est une intervention de plus, ça ne suffira pas, etc. Et donc, la semaine dernière, c'est vrai que le dollar yen avait tendance à se reprendre en août, et la semaine dernière, vous avez eu non pas une intervention, mais en réalité, tout est parti du fait que la Banque Centrale du Japon a lancé une vaste enquête pour interroger les entreprises et les banques japonaises quant à savoir si le taux de change actuellement représentait une difficulté pour elles. Et bien sûr, le marché interprète ça comme ça veut dire que d'autres interventions arrivent, que ça reste un énorme sujet. C'est un sujet pour la Fed, c'est un sujet pour les autorités américaines, c'est un sujet pour la BOJ, c'est un sujet pour les autorités japonaises. Ces deux banques centrales ne jouaient pas contre l'alliance Fed-BOJ. Elles ne veulent plus d'un USD/Yen en hausse. Elles ne veulent pas non plus d'un USD/Yen qui s'effondre, car un USD/Yen qui s'effondre, c'est un fort rebond du Yen, et un fort rebond du Yen peut, s'il est trop rapide, peut entraîner un débouclage trop rapide, brutal, des opérations restantes de carry trade, qu'on estime autour des 40, des 400, 500 millions de dollars. Bon, après, on sait qu'elles sont réparties à travers le monde, dans tous les pays, sur plein de classes d'actifs, et qu'elles ne sont pas concentrées sur un secteur ou un pays. Donc, au final, tout ça peut se diluer. Mais tout de même, ça représente un risque. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue technique, on peut voir ici l'amorce de ce qui pourrait être une épaule-tête épaule. Figure de sommet par excellence, oh là, je vous le remonte, on pourrait voir ici l'amorce de ce qui pourrait être une structure en épaule, tête, épaule. Figure donc de sommet par excellence, je vais vous remontrer ici donc le graphique en données journalières du taux de change du USD/JPY, où la semaine dernière, vous avez eu donc un nouveau rejet, qui est donc une réplique à ce rejet de la fin du mois de juillet dernier. On voit bien ici donc il y a une rupture du Kumo Daily du système Ichimoku, une rupture de la moyenne mobile à 200 jours, et donc cette hypothèse d'une pattern en épaule, tête-épaule. La ligne de coup est ici. Autant vous dire que casser 155 yens, c'est pas fait. En tout cas, pas quand j'enregistre cette vidéo. Donc allez voir le graphique maintenant du dollar yen au moment où vous regardez cette vidéo. Dites-vous bien que casser 155 yens, c'est le signal définitif qui valide le sommet cyclique majeur de l'USD/JPY à 164. Ensuite, si on finit par casser ce niveau et que ça drop, il faut pas que ça drop trop vite pour éviter de basculer d'un risque à un autre. Il y avait le risque du yen trop faible, USD/JPY qui monte non-stop, et le risque d'un yen trop fort, un USD/JPY qui dropperait trop vite, trop fort, trop verticalement. Il faut éviter l'un et l'autre. Bon. En tout cas, tant qu'on est sous le Kumo Daily, sous la moyenne mobile à 200 jours, désormais, c'est une tendance en retournement. Mais pour vraiment acter une tendance baissière, il faut casser ce seuil. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, alors justement, comment stopper la hausse? Taux japonais, la hausse peut-elle être stoppée? USD/JPY ne jouait pas contre l'alliance faite BOJ. La BOJ va-t-elle monter son taux le 18 septembre? Alors déjà, première chose que je voudrais vous rappeler, c'est pas si catastrophique. Oui, au Japon, la dette publique pèse énormément. Oui, au Japon, la dette publique pèse, eh bien, je crois, 250% du PIB. Oui, les taux obligataires japonais ne cessent de monter. Le 2 ans japonais, en noir ici, le 10 ans japonais, le 20 ans japonais, quoique depuis la semaine dernière, ça commence à reculer après que le 10 ans japonais ait atteint le seuil des 3% au plus haut depuis 1996. Mais c'est vrai que ce mouvement fait peur. Bon, voilà. Alors, première chose déjà, beaucoup mettent en avant la politique budgétaire de la nouvelle première ministre japonaise. Enfin, nouvelle, elle est plus nouvelle que ça, mais Sanae Takashi. Dans le budget japonais, la charge d'intérêt, c'est 10%. Dans le budget annuel du Japon, la charge d'intérêt de la dette publique existante, c'est 10%. Les États-Unis, c'est 20%. La France, c'est entre 15 et 20. Donc déjà, c'est... d'autre part, la dette publique japonaise, elle est possédée, je crois, à 80% par les Japonais. La dette publique française, par exemple, ou même américaine, et à une part beaucoup plus importante détenue par les étrangers. Mais déjà, si vous voulez, taux japonais, la hausse peut-elle être stoppée? Oui, elle le peut, parce qu'il n'y a pas non plus un dérapage budgétaire de folie. Et le Japon, ils sont à 1% de déficit budgétaire, quand les États-Unis et la France sont à 5-6%, voire davantage. La hausse peut-elle être stoppée? Il va falloir une inflexion de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. La Banque centrale du Japon, elle s'exprime le 18 septembre prochain, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis donc plusieurs années maintenant, elle remonte ses taux, de 0 on est à 1, elle devrait les monter, somme toute, d'après les dernières anticipations, il y a 83% de probabilité qu'elle les monte à 1,25, qu'elle les monte à 1,25 le 18 septembre prochain, mais c'est attendu. Dans le vrai sujet, c'est ça, regardez, c'est le bilan de la BOJ qui baisse. Et parce que il y a un ralentissement des achats d'obligations par la BOJ. En fait, le marché aimerait que la BOJ fasse quelque chose au niveau de ses achats d'obligations. Peut-être qu'elle ralentisse la baisse de ses achats, voire peut-être qu'elle stabilise ça. En tout cas, qu'elle stabilise son bilan. Il est possible que la BOJ, indique quelque chose en ce sens. Nous verrons bien le 18 septembre prochain. En tout cas, d'un point de vue budgétaire. Bon, on n'est pas dans une situation aussi détestable qu'en France et qu'aux États-Unis, donc oui, les taux longs peuvent finir de remonter. D'un point de vue technique, on n'a pas encore les signaux, mais en tout cas, c'est ce qui va être important de surveiller, et notamment donc si la BOJ communique sur ses taux longs et sur ses achats d'obligations, et notamment sur la baisse de son bilan. Donc là, le marché, donc oui, on est en surachat partout, on est au plus haut depuis 1996. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de cassure de support sur les taux longs japonais. Ça va être un sujet majeur du 18 septembre prochain. À noter quelque chose sur le yen, je vous montre le rapport Commitment of Traders de la CFTC, où donc, je vais vous montrer tout l'historique. Vous avez un renversement haussier de la position nette sur le JPY USD depuis tout en bas, sur un support historique. Donc là, si vous voulez, les institutionnels ont compris. Ils ont pris une claque. Les institutionnels cessent de shorter comme des zinzins l'USD Yen. Et ça va vraiment dans le sens, ça va vraiment dans le sens d'un top majeur établi ici à 164 yens sur le taux de change USD Yen. Et la réplique de la semaine dernière va dans ce sens. Voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire, parce que pour faire écho à la vidéo que je vous avais proposée donc, au début du mois de juillet. Dollar US, l'incertitude technique reste totale. Donc là, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le dollar, debasement sans fin. Le dollar a reculé la semaine dernière, oui, parce que eh bien, le dollar yen a reculé. Vous savez que sur l'horizon de temps mensuel, le dollar reste sous résistance. Vous savez que tant qu'il se maintient sous ce niveau ici des 100, 102 points, pivot, tant qu'il se maintient sous ce niveau des 100, 102 points, il ne donne pas de signal haussier. Un signal haussier, ce serait sortir par le haut du Kumo Weekly, Alors, il est toujours en position de le faire. En fait, il est en neutralité. Là, si vous voulez, le dollar, il est dans cette compression technique. Alors, il est sous résistance. Il est dans cette compression technique, il est dans le cumo, il est en attente d'un signal, ce signal qu'on attend depuis... Moi, je vous ai fait des vidéos en août en disant qu'on avait rejeté sous résistance. Rejeter sous résistance, c'est une chose. Casser un support, c'est une autre chose. Et maintenant, c'est la Fed. La Fed, si elle montre qu'elle s'accroche à tout ce qu'elle peut pour ne pas monter les taux et maintenir le statu quo, ça finira par casser par le bas. Donc là, ça va être majeur, les signaux arrivent. D'ailleurs, cette semaine, soyez très attentifs, cette semaine, vous avez les derniers chiffres qui comptent avant la fête du 16 septembre. Vous avez le CPI du 11 septembre, le PPI du 11 septembre, et notamment, donc, alors aussi cette semaine, le 9, vous avez le début du doublement des Treasury buybacks, rappelez-vous, annoncé en août. Eh bien, ça commence à partir du 9. Ça va agir sur les taux. Ensuite, bien sûr, eh bien, le marché regarde. La semaine dernière, vous avez beaucoup de membres du FOMC qui ont parlé, et notamment Christopher Waller qui a dit qu'il était optimiste pour l'inflation sous-jacente. Et c'est vrai que là, je vous remontre les derniers chiffres de l'inflation sous-jacente selon le CPI Core. Ça baissait, il n'y a pas d'impact du prix du pétrole. Et donc cette semaine, vous avez une mise à jour du CPI Core ce vendredi 11, et en gros, la Fed a dit son choix du 16 septembre va reposer sur la mise à jour de ce chiffre. Son choix du 16 septembre va reposer sur la mise à jour de ce chiffre. Donc ça va être majeur, et je pense que le dollar, il va enfin faire son choix, son choix qu'on attend depuis très longtemps, c'est-à-dire soit sortir enfin par le haut, casser 101, 102, ou dropper par le bas de cette pattern et dropper là. Le choix qui sera fait ne sera pas un choix de demi-mesure. Et là, on va l'avoir en septembre, cette réponse sur le dollar. Lorsque vous regardez le rapport cote sur l'euro-dollar, eh bien, la position nette institutionnelle, avec la position institutionnelle qui revient sur un gros support ici sur l'euro-dollar, qui a d'ailleurs permis ce rebond-là, c'est plutôt bullish euro-dollar. Donc, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui, plutôt à terme, aurait tendance à faire croire que ça sortirait par le bas. Mais bon, en même temps, ça va dépendre de l'inflation, des choix de la Fed, ça va dépendre aussi du prix du pétrole, aussi bien sûr du yen, parce que dans le dollar US face à un panier de devises, vous avez l'USD yen. Donc vous voyez que c'est un triangle de risque boursier parce qu'ils sont imbriqués. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. C'est ça qui est complètement passionnant. Donc cette semaine, soyez attentifs au CPI et au PPI. Bien sûr, je vous remontre le Broad Dollar Index de la Fed, pardon, qui est très important à suivre, dont je vous ai déjà parlé, qui lui aussi se maintient pour l'instant sous résistance, comme le DXY. Alors, la pression fondamentale peut-elle durer cette année? Là, je voulais vous remontrer que aux États-Unis, la charge d'intérêt, c'est 13,5% du budget annuel. Au Japon, c'est seulement 10%. Donc, il n'y a pas non plus une pression excessive. La pression a été exagérée sur les taux longs japonais, d'un point de vue, en tout cas, du déficit budgétaire. Alors maintenant, prix du pétrole, c'est le déclencheur. Finalement, on peut considérer que c'est un peu le déclencheur de l'incertitude parce que c'est le moteur premier qui vient alimenter les anticipations d'inflation, les taux d'intérêt, le Japon qui importe beaucoup d'énergie, donc l'inflation importée, donc la politique monétaire du Japon, donc le yen, donc les carry trade, etc., etc. Le triangle des Bermudes, le triangle du risque boursier. Là, où en sommes-nous donc sur ce prix du pétrole? Avant de regarder ça sur le plan technique, je vais vous rappeler quelque chose qui est intéressant, que je regarde de plus en plus. La clé du AIS, du Automatic Identification System, 130-140 navires par jour, c'est ce qui passait avant le début des opérations militaires le 28 février dernier. Lorsque vous regardez les chiffres officiels, par Marine Traffic et tous les sites de suivi de trafic maritime, on est à 10 bateaux par jour. Vous dites, c'est pas énorme. Pourtant, on sait qu'il y a quasiment 15 à 18 millions de barils qui passent certains jours. C'était 20 à 21 par jour avant le début des opérations militaires. Pourquoi ? Parce que maintenant, la grande majorité des transporteurs, des tankers, des supertankers ont leur transpondeur éteint. Le système Automatic Identification System est éteint. Nous savons que chaque nuit, sous escorte américaine, des bateaux passent, transpondeur éteint. Et certains passent même deux jours, transpondeur éteint. Donc, il y a quelque chose ici qui est une réalité, qui fait que eh bien, le prix du pétrole ne s'est pas envolé à 200 dollars. Ça, c'est donc quelque chose qui est une réalité, sans bien sûr oublier le transport par route. Les oléoducs qui sont en construction de contournement, nous n'en sommes pas là, mais ça, c'est une projection sur le très long terme. Et donc, le prix du pétrole, lui, il est toujours donc face à cette cartographie que je vous propose régulièrement. Au-dessus de 87 dollars, c'est une zone inflationniste. 80-87, c'est la zone d'alerte rouge. Donc là, quand j'enregistre cette vidéo, on est dans une zone qui est compliquée sur le prix du pétrole. Et effectivement, il remonte tout doucement. Il ne s'envole pas comme ici en février-mars parce qu'il y a ce système de transpondeur qui est désactivé, parce qu'il y a 40-50 bateaux qui passent par jour. On est bien sûr loin des 130-140, mais quand même. Et il y a une divergence que je relève. Entre le prix du pétrole. Donc là, vous avez la cartographie et allez voir maintenant le prix du Brut US. Là, c'est pour le WTI. Et il y a une divergence avec la volatilité anticipée du pétrole. Elle reste tout en bas. Et ça, j'ai pu vous en parler à plusieurs reprises, l'OVX vous montre les anticipations de volatilité implicites sur le prix du pétrole. Il y a danger lorsque le prix du pétrole monte avec l'OVX. Mais quand le prix du pétrole remonte et que l'OVX est tout en bas, c'est que les institutionnels ne s'inquiètent pas tant que ça. C'est qu'il y a une réalité sous-jacente qui est plus favorable que cela. Et je pense que c'est essentiellement ce système donc de l'AIS désactivé, avec une réalité de trafic nettement supérieure aux chiffres officiels. Même si oui, on n'est pas du tout revenu au monde d'avant. Donc moi, je reste optimiste tant que je vois une divergence entre, certes, la remontée du prix du pétrole et, par contre, la baisse de l'OVX. Ça me permet d'être encore optimiste. Voilà. Mais j'ai le droit. Je me trompe peut-être, nous verrons bien, mais pour l'instant, c'est le message que dévoile l'OVX. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo sur alors risque bonus. Je suis pas là pour vous apporter des risques. Moi, vous avez vu, au contraire, j'ai bien identifié, comme beaucoup d'analystes, le triangle du risque boursier. Mais j'y vois déjà des choses cassées. Le scénario de l'envolée de l'USD Yen n'a pas eu lieu. Je vois, voilà. Bon, je vais pas refaire la vidéo que je viens de vous faire là, mais voilà, je vous ai montré des éléments. Alors par contre, il y a un vrai sujet sur le spread France-Allemagne. Il y a autant, je trouve qu'il y a une exagération sur la situation budgétaire au Japon. Autant la France, c'est compliqué, puisque vous avez donc une charge de la dette qui est à 13% des dépenses de l'État. La dette publique est à 125% du PIB. Mais surtout, le vrai risque, c'est ça, c'est la dette détenue par les étrangers, qui est de 55%. Et ça, c'est un vrai risque. Et donc, forcément, oui, le taux de la France se négocie maintenant un peu au-dessus du taux de l'Italie. Et surtout, là, vous avez un gros risque. Le baromètre ultime du risque, c'est le spread de taux obligataires à 10 ans entre la France et l'Allemagne. Et vous voyez qu'il est, quand j'enregistre la vidéo, il rejoint la zone de la crise de la dette souveraine à l'époque en 2011-2012 en Europe. Et il a dépassé ce, il est à 0,85. Alors, il est sur ses plus hauts, mais on est vraiment dans une zone, si vous voulez, 0,85, 0,86. Il faut pas casser ça à la hausse, parce que là, ça va vraiment devenir dangereux sur la dette française. Donc, surveillez le spread. Comment surveiller le spread? Vous allez sur TradingView et en haut ici, là où vous sélectionnez les actifs, vous mettez exactement ce que j'ai mis ici. FR DCY moins DE DCY, passé en cours de clôture, et ça va vous permettre de suivre ce spread. Il est en zone d'alerte rouge technique. Donc, attention, chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.